Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europa 1.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver et de vous embarquer dans le sillage des correspondants d'Europe 1. Avec eux, on va écouter le monde changer. Et les deux premières pages de ces carnets du monde nous emmènent en Asie. En Chine d'abord, avec une résurgence du coronavirus qui désespère notamment les Français expatriés là-bas. Ils sont totalement coincés, certains en dehors de la Chine, séparés de leur famille et d'autres à l'intérieur.
Je me sens complètement dans l'incertitude, quoi. J'ai absolument aucune idée de quand je pourrais rentrer. Déjà, je suis séparé des gens que j'aime, c'est une torture psychologique.
C'est vraiment la prison à ciel ouvert. Enfin, on est enfermé ici, on n'a pas d'aide, on est complètement laissé à la dérive et par l'État français et par l'État chinois.
On ira ensuite au Laos et en Thaïlande pour observer comment l'influence de la médecine traditionnelle chinoise s'étend de plus en plus, une pratique ancestrale qui fait partie intégrante du soft power chinois aujourd'hui. On sera aussi en Grèce pour rencontrer un jeune homme dont le courage et la détermination forcent l'admiration. Amadou Diallo a 20 ans, il est réfugié de Guinée où il était persécuté et il voulait à tout prix poursuivre ses études.
J'ai voulu aller au lycée français, donc je me suis réveillé un jour, je me suis dit alors il faut les contacter. J'ai cherché les contacts sur internet, j'ai contacté la secrétaire et elle avait l'air très très sympa au téléphone, c'est ce que j'avais compris.
Et après le lycée français, Amadou vient d'être admis à Sciences Po, mais pourra-t-il y venir ? Pas sûr, il n'a toujours pas de papier. Et puis aujourd'hui, c'est le premier tour de l'élection présidentielle en Pologne. Et ce qui se profile, c'est un duel serré au second tour entre le président sortant, nationaliste ultra-conservateur, et le nouvel opposant, le maire centriste et pro-européen de Varsovie. Une fracture qui traverse la société polonaise jusqu'au cœur des familles.
Je n'ai pas de contact avec les gens qui ont d'autres opinions politiques que moi. Il y a par ma sœur donc et un ami ou deux. Je ne m'entoure que de gens qui pensent comme moi.
Nicolas Caro viendra nous parler d'un livre jeunesse, Alma, l'histoire d'une jeune africaine au temps de l'esclavage. Or, l'éditeur anglo-américain de l'auteur Timothée de Fombelle refuse pour la première fois de le publier parce que lui-même, l'auteur, est blanc. Enfin, Joseph Chovanec est inspiré par des noms de villes aujourd'hui parce qu'il est allé se promener du côté de Maastricht. Les carnets sont ouverts et on file à Pékin.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
L'heure est au reconfinement à Pékin après la découverte d'un nouveau foyer de l'épidémie sur un immense marché au sud de la capitale. Une trentaine de quartiers a été rebouclée et quelques 2000 sites ont été ouverts dans Pékin pour dépister massivement la population. Bonjour Sébastien Le Belzic.
Bonjour Sophie.
Vous êtes notre correspondant en Chine et vous subissez vous aussi ce nouveau bouclage, vous qui vivez à Pékin. Et ensemble aujourd'hui, on va parler de ces centaines, voire ces milliers d'expatriés français qui depuis 5 mois sont bloqués, soit incapables de quitter la Chine, soit incapables de rentrer chez eux à Pékin, car les frontières sont toujours fermées. Vous avez rencontré, Sébastien, plusieurs familles déchirées et inquiètes. Il y a des situations vraiment dramatiques parfois.
Oui, par exemple, j'ai rencontré dans son appartement encombré de valises, hein, prête à partir à tout moment, Marianne Daquet. Elle est arrivée à Pékin en 2006. C'est même dans cette ville que sont nées ses 3 filles. Et là, en quelques mois, eh bien, elle a tout perdu. Car Marianne avait créé une école d'art qui vient de mettre la clé sous la porte. Elle a fait faillite et elle est aujourd'hui au bout du rouleau.
Du jour au lendemain, on a dû fermer sur ordre du gouvernement. Et depuis, donc 5 mois, j'ai jamais pu rouvrir et j'ai jamais pu retravailler. Mais c'est vraiment la prison à ciel ouvert. Donc au départ, on était confinés chez nous. Puis on a été confinés dans la ville de Pékin. Puis on a été confinés dans la Chine qui avait fermé ses frontières, donc on ne pouvait pas ni rentrer ni sortir. Et là, on est reconfinés à la ville de Pékin. On n'est pas enfermés chez nous et ça, c'est quand même heureusement. Mais on est coincés dans Pékin. Enfin, on est enfermés ici. On n'a pas d'aide. C'est terrible. J'ai écrit au consulat l'autre jour en leur expliquant que ce n'est pas de notre faute ce qui arrive. C'est-à-dire qu'on a tout perdu. On est complètement laissé à la dérive et par l'État français et par l'État chinois.
Alors Marianne voit s'envoler en fait son rêve chinois et elle espère maintenant pouvoir quitter la Chine quand les liaisons aériennes en fait seront rétablies entre l'Empire du Milieu et le reste du monde. car la situation n'est vraiment plus tenable ici pour elle.
On doit continuer à payer l'école. Ici, une année d'école, c'est 15 000 euros. Mes enfants, ils n'ont pas été à l'école depuis janvier. Il y a une grande insécurité due à ces régulations changeantes en permanence. Il y a un racisme qui est né puisqu'il y a eu une communication étatique qui a expliqué que le virus venait de l'étranger. Donc en fait, on est dans une situation pour beaucoup de détresse. Et on s'entraide entre nous, et heureusement, parce qu'on n'a que ça.
Qu'est-ce qui est écrit sur le mur ?
Sur le mur, en fait, c'est donc, puisque ça fait des semaines qu'on se dit, on rentre, on rentre pas, on part, on part pas, c'est d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai jamais utilisé le mot rentrer en France, et là, ça devient dans ma vie, et donc, j'ai fait des tableaux pour essayer de réfléchir, ce qu'on perdrait si on partait, et puis ce qu'on gagnerait si on allait vivre en France, et on gagne pas de pollution, du paysage et l'école gratuite.
Bon, pas mal d'incertitudes, hein, on l'entend. Le racisme dont parle Marianne, c'est un rejet de tout étranger, en fait, Sébastien ?
Oui, exactement. Ce sont surtout, en fait, hein, les personnes noires qui ont le plus souffert. Parmi eux, beaucoup d'étudiants. C'est ce que m'a raconté Hakim, un étudiant français en doctorat à Tianjin. Mais lui aussi, il est coincé en France depuis plusieurs mois.
Il y avait beaucoup d'étudiants et même de résidents africains qui ont été expulsés expulsés de leur logement, et qui n'a pas eu de soutien ni de leur université ni de leur employeur. Et après, on ne sait pas si c'était les propriétaires qui abusaient de leur pouvoir ou si c'était une directive de la province. Enfin, en tout cas, ça fait beaucoup de bruit dans la communauté africaine présente en Chine. Et ça, il y en a quand même plusieurs ils ont plus vraiment envie, ils n'ont même plus du tout envie d'étudier en Chine ou d'avoir affaire avec la Chine.
Alors comme ces étudiants malmenés, hein, des centaines de Français, peut-être même des milliers, sont coincés, incapables de partir ou de revenir. Ça ne marche dans aucun sens. Avec une seule rotation aérienne par semaine entre la France et la Chine, les places dans les avions sont rares et extrêmement chères. Certains se retrouvent même coincés dans un pays tiers. C'est le cas de Michel Gonsalves. Il s'est retrouvé isolé en Thaïlande alors qu'il était en déplacement professionnel. Et il ne peut plus rentrer chez lui à Pékin, où il habite depuis plus de 20 ans et où se trouvent sa femme et ses enfants.
Je me sens complètement dans l'incertitude, quoi. J'ai absolument aucune idée de quand je pourrais rentrer.
Votre sentiment par rapport à cette situation ?
Déjà, je suis séparé des gens que j'aime. C'est une torture psychologique. Je suis pas en grande forme, hein, psychologiquement, c'est sûr. Et surtout, c'est l'incertitude. Je sais pas quand est-ce cette suspension va s'arrêter. Bien sûr, il y a tout un tas de rumeurs dans tous les sens. Je ne sais pas comment ça peut évoluer, donc c'est cette incertitude-là qui et l'incertitude et la séparation de ma famille qui me rendent un petit peu inquiet. Parce qu'il paraît que Xi Jinping et Macron s'appellent de temps en temps, c'est quand même un dossier défendable, il me semble.
Situation ubuesque, hein ?
Oui, en effet, et parmi les situations dont pourraient aussi parler les présidents Xi et Macron, il y a celle de cet autre Français, David Bonnel. Il travaille, lui, pour une grande entreprise européenne. Pas de problème d'argent, donc. Il est expatrié et il a repris son travail à Pékin, mais son appartement est étrangement calme.
Là, la vie de famille, elle a pris un petit coup, parce que là, je suis tout seul à Pékin depuis 5 mois. C'est la manière chinoise de gérer ce problème avec une tolérance zéro. Mais bon, c'est vrai qu'on aimerait un petit peu plus de visibilité, au moins pour savoir un petit peu quand est-ce que je pourrais ramener ma famille à Pékin.
La vie quotidienne à Pékin, c'est prise de température, QR code pour surveiller vos déplacements, tout ça. Est-ce que c'est lourd à vivre au quotidien ?
Ouais, le plus dur, je dirais, c'est le masque, parce que là, ça fait 5 mois que je porte un masque et je commence vraiment à en avoir ras-le-bol. Surtout avec la chaleur, là, il fait plus de 30 à Pékin, donc le masque est dur. Après, les prises de température, effectivement, on s'y habitue. Les QR codes aussi, il faut les avoir prêts à dégainer le QR code à tout moment. Il y a une surveillance qui est assez difficile. Ouais.
Alors, ce sont évidemment des histoires personnelles, uniques, singulières, mais qui parfois peuvent être dramatiques, Sébastien.
Oui, typiquement, Marianne, elle ne sait pas si elle pourra quitter la Chine avec son mari et ses 3 enfants. Pour eux, le billet coûterait 15 000 euros, mais elle ne peut pas non plus payer son loyer à Pékin. Ouais. Michel et David, eux, voudraient bien revoir leur famille, mais pour l'instant, tout reste bloqué.
Alors cette semaine, Sébastien, l'Union européenne s'en est mêlée en appelant à la Chine à faciliter le retour des résidents étrangers dans le pays.
Oui, c'est même devenu une affaire politique, mais il ne faudrait pas non plus que ce soit uniquement une affaire de gros sous qui profite aux multinationales qui ont déjà fait plusieurs systèmes pour rapatrier certains dirigeants. Un système que l'on appelle fast track et qui doit permettre un retour de grands patrons de filiales en Chine. Car le problème, il est surtout humain, on le voit, kafkaïen même. Ouais. Le gouvernement français dit qu'avec une rotation par semaine depuis Pékin et une autre depuis Shanghai, eh bien, on ne peut pas dire que le pays est fermé, mais ce n'est pas si simple, car on l'a dit, les billets sont hors de prix.
Est-ce qu'il y a des aides proposées ?
Presque rien, en fait. Les bourses pour les écoles françaises qui n'ont pas rouvert à Pékin ou à peine pendant deux semaines avant de refermer, eh bien, ces bourses sont quasi inexistantes. Les subventions, les aides du ministère des Affaires étrangères, eh bien, elles se perdent un peu dans tous les pays du monde où d'autres Français sont en difficulté. Ça représente moins de 150 euros par personne, de toute façon.
On ne va pas loin avec ça. Les solutions, de toute façon, seraient au cas par cas.
Bien sûr, mais déjà si la Chine laissait les familles se retrouver, ce serait bien que ceux qui ont un permis de résidence ou un visa familial en Chine puissent enfin rentrer chez eux.
Merci Sébastien, merci d'avoir attiré notre attention sur le cas de ces expatriés français en Chine, pour certains en grande difficulté aujourd'hui. Merci, à bientôt.
Merci Sophie.
Et on va aller maintenant dans deux autres pays d'Asie pour constater l'essor de la médecine traditionnelle chinoise qui s'exporte.
Europe 1, les carnets du monde.
Jusqu'à 14h avec vous, Sophie Larmoyer. Cette pandémie de Covid-19 aura finalement donné l'occasion à la Chine de redoubler d'efforts pour faire la promotion de ses propres pratiques médicales.
La médecine est au cœur de tous les débats en ce moment. Traitement, pratique, coût. Mais je devrais dire les médecines. Saviez-vous que 85% des patients de la Covid-19 en Chine ont reçu, seul ou en complément, un traitement de médecine traditionnelle chinoise ? Une pratique centrée sur le renforcement des fonctions immunitaires du corps. En fait, ça fait déjà plusieurs années que la médecine chinoise est en plein essor et s'exporte partout dans le monde, mais plus particulièrement chez ses voisins asiatiques. Justement, on part au Laos, petit pays enclavé au sud du puissant voisin chinois. La majorité des soins médicaux pratiqués là-bas sont des soins traditionnels. C'est un reportage de Carole Issou.
Au rez-de-chaussée d'une modeste maison en périphérie de Vientiane, une rangée de lits aux matelas fatigués, parfois séparés par de simples rideaux, des aiguilles, des ventouses en bois. Nous sommes dans la clinique du docteur Duang Dao, docteur en médecine traditionnelle chinoise. Ses patients viennent la consulter pour des douleurs musculaires, des rhumes à répétition, mais aussi des affections chroniques comme du diabète ou des dépressions. Aujourd'hui, une femme d'une cinquantaine d'années arrive en boitant. Elle souffre, dit-elle, d'une sciatique.
Doucement, doucement. Aïe.
Vous avez pris des médicaments ?
Ah oui, plein. Je suis allée à l'hôpital. Ça n'a rien fait, alors je viens vous voir.
La médecin fait allonger sa patiente et lui plante une série de petites aiguilles, de la hanche jusqu'à la cheville, reliées à une machine qui diffuse un courant électrique. Mais en plus de l'acupuncture pour soulager la douleur, elle prépare un mélange d'herbes qu'elle fait brûler juste en dessous du nombril, selon la technique dite de la moxibustion.
Elle a un niveau très bas d'énergie. Elle a pris beaucoup de médicaments, son foie est très fragilisé. Il faut rééquilibrer ça.
Renforcer l'immunité, c'est l'idée centrale de la médecine chinoise, qui préfère toujours prévenir que guérir. En Asie, on dit « garder en santé ». La discipline aurait d'excellents résultats sur les troubles musculo-squelettiques, mais aussi sur ce qu'elle appelle les maladies de l'émotion, comme la dépression ou d'autres affections mentales, notamment grâce au Qigong, une pratique sportive douce. À l'origine, le docteur Duang Dao pratiquait la médecine générale occidentale dans le plus grand hôpital du pays, et c'est grâce à des formations et des bourses offertes par le gouvernement chinois qu'elle s'est formée en médecine traditionnelle.
Tous les ans, je retourne en Chine pour des sessions de perfectionnement financées par le gouvernement chinois. Ce qui est bien, c'est que maintenant, je peux offrir des réponses à mes patients de tous les âges, même ceux qui sont fragilisés par des prises abusives de médicaments ou qui souffrent d'effets secondaires trop importants. Souvent, ici, les gens des campagnes réagissaient mal aux médicaments ou refusaient même de les prendre. Maintenant, je peux les aider.
Les médicaments à base de plantes sont aussi souvent moins chers, plus abordables pour les patients laotiens, dont le pays reste l'un des plus pauvres du monde. Partout en Asie, la Chine finance des formations à la médecine chinoise. C'est le cas aussi à Bangkok, en Thaïlande, comme ici, à l'hôpital Hua Chiu, étincelant, de plus en plus fréquenté, où tous les médecins ont une double formation en médecine chinoise et occidentale. Ces derniers mois, des patients atteints de la Covid ont été traités selon les protocoles chinois. Même si les principes de la médecine chinoise ont été énoncés il y a des milliers d'années, bien avant la découverte des virus, la discipline a des réponses complémentaires à apporter, comme nous l'explique le docteur Oradok.
La théorie de la médecine traditionnelle parle beaucoup des épidémies. On peut utiliser l'acupuncture, différents exercices physiques. La médecine traditionnelle est efficace pour retarder et même bloquer l'évolution de la maladie. L'idée, c'est de renforcer l'immunité du corps et ainsi, si votre immunité est bonne, la maladie ne pourra pas venir l'envahir.
Aujourd'hui, face aux coûts de plus en plus élevés de la médecine occidentale ou aux problèmes d'addiction aux médicaments, les instances médicales internationales recommandent une collaboration entre les approches modernes et traditionnelles, mais beaucoup de travail reste à faire pour convaincre les sceptiques. À Vientiane et à Bangkok, Carole Izou pour Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 et on retrouve Carole Izou depuis Bangkok. Bonjour Carole.
Bonjour Sophie.
Une question que beaucoup se posent ici d'abord. Est-ce qu'on est sûr que ça marche, cette médecine traditionnelle chinoise? Est-ce qu'on a des preuves de son efficacité?
Si vous demandez à des médecins traditionnels, ils vous diront « oui, bien sûr, la preuve, ça marche depuis des milliers d'années, on observe les patients, on les suit, ça marche ». Mais c'est vrai que cette médecine traditionnelle manque cruellement d'études scientifiques pour fonder ses théories. Le qi, par exemple, vous savez, cette énergie vitale dont la bonne circulation conditionne la bonne santé. Les méridiens, ces couloirs énergétiques qui relient les organes entre eux. Tout ça, pour les médecins occidentaux, c'est du vent. Et pareil pour les produits utilisés.
Alors pour les produits, justement, il n'y a pas de protocole de test, des études scientifiques pour prouver l'efficacité de tel ou tel médicament ?
Pas vraiment, parce que rien que ce protocole, c'est déjà contraire aux principes de la médecine chinoise qui considère toujours l'humain dans son environnement. Et oui, donc en fait, pour les mêmes symptômes, on ne prescrit pas les mêmes plantes aux patients, ni en même quantité selon le lieu où ils vivent, leurs habitudes alimentaires, leur personnalité même parfois. C'est toujours en fait du cas par cas, ce qui rend les études scientifiques à grande échelle très difficiles. Cependant, bon, c'est vrai que pour certains produits sur lesquels il y avait de gros enjeux financiers, type ginseng ou même l'acupuncture en général, ceux-là, leurs bienfaits ont été déjà largement documentés par des études.
La médecine chinoise est très peu répandue en Europe, je crois, notamment en France.
Alors, on estime qu'il y a environ 2000 praticiens de médecine chinoise en France, mais ils officient dans l'ombre avec le risque permanent d'être condamnés pour exercice illégal de la médecine. La seule façon d'exercer légalement pour eux, c'est d'avoir un double diplôme, ce qui est extrêmement difficile puisqu'il y a presque autant d'années de formation pour les deux types de médecine. Il y a quelques avancées au niveau international puisque l'année dernière, l'OMS a publié sa classification internationale des maladies. C'est un peu la Bible des médecins dans le monde, en y incluant les définitions chinoises de certaines affections. La levée de boucliers, d'ailleurs, a été très violente du côté des médecins occidentaux qui ont crié à la sorcellerie sponsorisée par les États.
Pourquoi une telle résistance ? Est-ce que c'est d'abord de la méconnaissance ?
Oui, sans doute, en partie, puisque ce sont vraiment deux approches très différentes. Mais il y a aussi des questions d'intérêt économique. C'est un véritable marché en plein essor. La Chine exporte pour plus de 3 milliards d'euros de produits de médecine traditionnelle chaque année. Les taux de croissance du marché sont impressionnants. Mais c'est politique aussi, car finalement, derrière un type de médecine, il n'y a pas que de la science. Il y a aussi une vision du monde, du rapport entre l'homme et son environnement, des jugement aussi sur les styles de vie des uns et des autres. La médecine traditionnelle chinoise qui prend de l'ampleur, c'est la sphère culturelle chinoise qui s'étend dans le monde. Ça fait partie de ce qu'on appelle en géopolitique le soft power chinois. D'ailleurs, preuve qu'elle mise dessus, la Chine planche en ce moment sur un projet de loi qui pénaliserait la diffamation de sa médecine traditionnelle.
Ah, effectivement. Et bonne nouvelle, hein, au passage, les produits issus du pangolin, notamment ces écailles, ont été officiellement retirés de la pharmacopée de la médecine traditionnelle chinoise. Et d'ailleurs, le pangolin, qui est en voie de disparition, a acquis ce mois-ci le même statut de protection que le panda. Voilà. Merci beaucoup, Carole, pour ce coup de projecteur sur la diffusion volontariste, hein, on l'a compris, de la médecine traditionnelle chinoise dans le monde. À très bientôt.
À bientôt, Sophie.
À suivre, la page littéraire des carnets, la Minico va nous rejoindre.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est maintenant 13h25, Sophie Larmoyer, c'est l'heure d'un livre dans le monde où comment les auteurs, eux aussi, racontent le monde à travers leurs romans. Nous sommes avec Nicolas Carreau.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Parfois ce sont les romans eux-mêmes qui suscitent un débat. Cette semaine, une fois n'est pas coutume, vous faites escale au pays de la polémique.
Oui, une histoire de censure. L'auteur est français, c'est une star de la littérature jeunesse, Timothée de Fombelle. Ouais. Il a publié notamment Toby Loneless et Van Gogh, énorme succès de librairie, traduit dans toutes les langues, exporté partout. Il vient de publier son tout dernier, Alma. Le vent se lève chez Gallimard, jeunesse. C'est le premier tome d'une trilogie centrée donc sur l'esclavage.
Et elle est là, la polémique.
Exactement. Ouais. Je l'ai dit, donc Timothée de Fombelle est un auteur bankable, mais pour ce roman-là, son éditeur anglo-saxon, Walker Books, a aimé le livre pourtant, mais ne le publiera sans doute pas. Pourquoi ? Parce que Timothée de Fombelle est blanc. Il ne peut donc pas décemment écrire une fiction dans le cadre de l'histoire de l'esclavage. Ça s'appelle aux États-Unis et c'est un concept qui va sans doute s'amplifier, l'appropriation culturelle. Emmanuel Pierrat, avocat et spécialiste de ces questions-là, nous explique de quoi il retourne.
L'appropriation culturelle est une théorie qui est née sur les campus américains, au terme de laquelle des gens qui n'appartiendraient pas à la bonne communauté, entre guillemets, ne pourraient pas raconter les histoires, les mettre sous forme de romans, s'inspirer de personnages. Par exemple, un écrivain blanc ne peut pas représenter ou mettre en scène une histoire qui concerne les Afro-Américains, un écrivain asiatique ne pourrait pas mettre en scène des Amérindiens, c'est-à-dire des Indiens d'Amérique, une réalisatrice de films qui serait indienne elle-même ne pourrait pas filmer des Français ou des Écossais. Voilà, c'est une absurdité qui consiste à vouloir que chacun ne puisse filmer que sa propre culture et que ceux qu'il est supposé mieux connaître que les autres.
C'est fou, et très concrètement, Nicolas, ça veut dire que pas mal de livres déjà existants ne pourraient pas être publiés aujourd'hui, en tout cas pas chez les anglo-saxons.
Ben oui, et beaucoup de chefs-d'œuvre. Ça veut dire qu'un type du Jura ne peut pas écrire sur les massacres de Vendée ou sur les Cathares. Ça veut dire que Philippe Djian ne peut pas écrire en se mettant dans la peau d'une femme. Ouais, enfin, il y a mille exemples. Ça veut dire aussi qu'il faudra un certain courage pour aborder certains sujets, certaines périodes. La bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, juridiquement, ça n'existe pas.
Il n'y a pas de texte de loi pour l'heure en faveur de la théorie de l'appropriation culturelle. Il y a en revanche une pression très forte, une forme de nouvelle censure. Il faut espérer qu'à un moment l'état de droit l'emportera et qu'on finira par contrer cette dérive ahurissante qui consiste à réinstaurer une sorte de ségrégation racialo-culturelle alors qu'en priori tous nous sommes pour militer, en tout cas lutter pour la plus grande égalité et l'appropriation, alors là pour le coup, de la culture par tous, pour le bien de tous.
Ça n'est pas très réjouissant en tout cas.
Non, ça me déprime même. Mais enfin, ce qui est réjouissant, en revanche, c'est le livre de Timothée de Fombelle, Dépêchez-vous tant qu'on a encore le droit de le lire. Ça se passe en 1786 en Afrique. C'est l'histoire d'Alma et son frère Lame. Ils vivent dans une vallée, ils s'amusent beaucoup. Ça commence comme ça. C'est un zèbre sans rayures, debout dans les herbes jaunes, avec deux enfants couchés dans son ombre. Regarde comme il est grand. Elle s'appelle Alma. Elle parle à son petit frère allongé près d'elle. « Regarde !» Ils sont sur le dos, serrés l'un contre l'autre dans cette prairie sans fin. Et quand le soleil bouge un peu, l'animal fait un pas pour que les enfants restent à l'ombre. Ils rient ensemble en le contemplant. Si Alma savait comme elle repensera plus tard à cette fraîcheur de son petit frère sur son côté, au clapotis de son rire.
Ah, il s'amuse. Mais il y a toujours un mais, non, avec un bon roman.
Ben oui, elle va devoir partir, Alma, pour rechercher justement son petit frère. Il a disparu. Ses aventures vont se mêler à celles de Joseph Mars, qui lui s'est faufilé discrètement dans un navire de traite, un négrier. Lui, il est à la recherche d'un trésor. C'est très beau, délicat, plein d'aventures, avec des illustrations magnifique très de joli. François Place.
Timothée de Fombelle, donc Alma, le vent se lève chez Gallimard Jeunesse, pour les jeunes et les moins jeunes.
Pour tout le monde.
Pour tout le monde. Merci Nicolas. À tout à l'heure pour La Voix et Livre.
À tout à l'heure.
Et après Alma, l'histoire d'Amadou. C'est un jeune réfugié guinéen. À l'histoire assez extraordinaire, on vous la raconte dans moins de 2 minutes.
Europe 1, les carnets du monde.
Et c'est vers la Grèce que l'on se dirige maintenant, Sophie Larmoyer. La Grèce où les conditions d'accueil des migrants et les procédures d'asile ont été durcies pendant le confinement.
Alors que le ton monte à nouveau sur le dossier des migrants entre la Turquie et la Grèce, dans les carnets aujourd'hui, on s'intéresse à un jeune homme. Il s'appelle Amadou Diallo et à 20 ans, il est originaire de Guinée, mais vit depuis quelques années à Athènes, où il est arrivé lui aussi par la Turquie. Et c'est là-bas, à Athènes, qu'on retrouve Fabien Perrier, qui est en ligne avec nous. Bonjour Fabien.
Bonjour Sophie.
S'il y a un mot pour qualifier le parcours d'Amadou Diallo, c'est exceptionnel. Amadou est arrivé en Grèce en 2016. À l'époque, il est mineur non accompagné. Il est orphelin de père depuis ses 9 ans. Il a perdu sa mère 2 ans plus tard. Et il fait partie de ces milliers de mineurs non accompagnés qui sont sur les routes migratoires finalement.
Tout à fait, rien qu'en Grèce, selon les statistiques officielles, ils sont environ 5000 jeunes de moins de 18 ans, sans leurs parents, pris en charge par des structures d'accueil associatives ou par l'État. Mais selon différentes sources, environ 3000 autres jeunes seraient dans le pays, seuls livrés à eux-mêmes pour survivre. Leurs histoires se ressemblent souvent. Elles sont faites de nuits à dormir dans les rues, de travail forcé, de persécution, voire d'exploitation sexuelle. Amadou, lui, parle peu de son passé ou des persécutions subies après la mort de ses parents. Ce qui le préoccupe, c'est son avenir.
Je suis issu d'une communauté qu'on appelle les Peuls et nous sommes discriminés et aussi victimes de violences d'État. Et donc, il y a tout ce risque que je cours en Guinée. Donc, à cause de toutes ces raisons, ajoutées à celles familiales, que j'ai quitté la Guinée, je suis venu en Grèce en 2016. Je pense que voilà, j'ai réussi à faire pas mal de choses pour m'intégrer. Aujourd'hui, j'ai été accepté à Sciences Po et j'attends les documents qu'il faut pour rejoindre Sciences Po.
Alors, on a bien entendu, hein, il est pris à Sciences Po en France, donc une filière dont on sait qu'elle est très sélective. Comment en est-il arrivé là, Fabien ?
À force d'une détermination sans faille. Avant de penser à Sciences Po, il avait en tête, Amadou, une promesse et il a tout mis en œuvre pour la concrétiser.
On m'avait déjà promis d'aller faire mes études en France. C'est mon père qui me l'avait promis. Et j'ai voulu aller au lycée français. Donc je me suis réveillé un jour, je me suis dit, alors il faut les contacter. J'ai cherché les contacts sur Internet. Et donc j'ai contacté la secrétaire. Et elle avait l'air très très sympa, en tout cas au téléphone, c'est ce que j'avais compris. Et je me suis dit, si toutefois l'argent que j'ai mis de côté en travaillant pendant l'été pouvait suffire pour me payer la scolarité, bah, je pense que j'allais sacrifier cet argent pour continuer mes études.
Alors cette histoire, elle est vraiment exemplaire. Hein. Je résume, Amadou, jeune réfugié de Guinée, demandeur d'asile, a donc travaillé l'été pour payer sa scolarité au lycée français d'Athènes.
C'est ça. Il a fait toutes les démarches pour s'inscrire. Il a passé des tests d'entrée. Il a été admis à poursuivre sa scolarité au lycée Eugène de la Croix. Puis il a payé en partie sa scolarité, aidé aussi par des mécènes, comme il dit. En fait, il s'agit d'une association Home Project qui vient en aide aux mineurs non accompagnés sur le plan légal, social. Quand Amadou est arrivé en Grèce, ils lui ont procuré un toit, un cadre. Cette association est elle-même soutenue par différentes entreprises implantées en Grèce. Certaines, sensibles aux motivations d'Amadou, ont souhaité prendre en charge une part des frais. Et c'est comme ça qu'au lycée, Amadou va faire une rencontre déterminante. Quand il en parle, il a encore des étoiles dans les yeux.
Alors d'abord, cette prof, Madame Husson, après un exposé en histoire que j'ai fait sur le Rwanda, sur le génocide rwandais, elle m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire après. Et je lui ai dit que j'étais beaucoup intéressé par les relations internationales, donc les sciences politiques. Et elle m'a directement suggéré Sciences Po. Elle m'en a un peu parlé et c'est de là que j'ai commencé à faire des recherches un peu sur cette université. Mais j'ai vu que c'était payant. Je reviens, je dis « Madame, cette université, elle est payante et en plus, j'ai pas les papiers qu'il faut. » Et elle me dit, moi, à mon avis, tu peux t'inscrire et après, tu n'as rien à perdre. Je me suis dit, d'accord, pourquoi pas alors.
Cette fameuse prof, Madame Husson, vous l'avez rencontrée, Fabien?
Oui, je suis allé voir Marie Husson, la professeure d'histoire. Elle n'en démord pas. Amadou a un profil parfait.
Amadou a très clairement un profil sciences sociales. C'est un élève qui s'intéresse énormément à l'actualité, qui a une vision des choses très particulière parce qu'il a vécu des choses particulières, donc notamment sur tout ce qui est la question des migrations, la question de l'Afrique. Il sait plein de choses, il les voit avec son prisme à lui, que je trouve extrêmement intéressant.
Deux autres caractéristiques reviennent toujours à l'évocation d'Amadou. Son charisme et son intelligence.
Il a une intelligence sociale très forte. Tous les élèves le respectent non pas parce qu'il est migrant et parce qu'il a vécu des choses difficiles, mais parce qu'il sait proposer des choses, il sait accompagner les projets, même quand il ne participe pas directement, il vient soutenir ses camarades, il fait preuve d'énormément de qualités humaines en fait.
L'histoire est belle, hein. Et pourtant, Amadou Diallo risque de ne pas pouvoir étudier à Sciences Po, racontez-nous.
C'est un risque en effet, parce que la demande d'asile d'Amadou a déjà été refusée deux fois. La procédure d'entretien est un des gros problèmes soulevés par les associations. Vous savez que la Grèce est débordée par les demandes de dizaines de milliers de migrants. Donc les associations expliquent que les situations individuelles ne sont pas prises en compte. On considère les groupes d'individus. Or, Amadou ne vient pas d'un pays en guerre. L'examen de son cas s'arrête donc là. Il semble que son appartenance ethnique ait été ignorée, tout comme le fait qu'il soit orphelin, que son père ait été persécuté politiquement, ou encore qu'il ait pu subir des atrocités. Aujourd'hui, le sort d'Amadou est donc suspendu à la prochaine décision de la justice grecque.
J'ai une audience qui est prévue le 8 juillet. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué. Donc, j'allais à l'école, j'ai fait ma procédure d'entrée à Sciences Po, sachant que tout ça n'était pas prêt. Donc aujourd'hui, je stresse beaucoup. Je vois une porte qui s'ouvre, mais on ne me donne pas les clés pour entrer dans un nouveau monde.
Ouais, c'est une belle image et en même temps, elle est terrible. On imagine l'angoisse du jeune homme, hein.
Exactement. Alors qu'il a raconté en détail son histoire lors des auditions, il pense ne pas avoir été entendu. Il éprouve un véritable sentiment d'injustice.
J'ai raconté mon histoire, j'ai présenté des preuves qui sont tangibles ou si vous voulez palpables pour prouver que j'étais persécuté, pour prouver que j'étais en danger dans mon pays, mais qui n'a malheureusement pas été prise en considération. Donc... Si toutefois la justice, elle existe, je dois aussi bénéficier de cette justice. C'est-à-dire que j'ai le droit d'obtenir le statut de réfugié suite à la Convention universelle des droits de l'homme. En tant que jeune qui... Moi, je ne me reproche de rien d'ailleurs, je n'ai commis aucun crime. Mon casier judiciaire, il est vide, vous pouvez vérifier. Je me sens aujourd'hui exclu des êtres humains, en fait. Parce qu'on dit que c'est un droit humain de circuler. Je pense que c'est l'article 13 ou 16, si je ne me trompe pas, qui donne la liberté de circulation. Mais aujourd'hui, on voit que les marchandises peuvent circuler sans problème, mais les hommes rencontrent des obstacles devant eux à rejoindre des pays qui se trouvent sur croix dans l'Union européenne. Moi, je trouve ça tout à fait dommage, pour ne pas dire inacceptable. Je traverse en ce moment un gros stress. Je n'arrive toujours pas à fêter mon admission à Sciences Po. Et ça, c'est regrettable.
Ouais, on se dit, Fabien, que ce serait un véritable gâchis si ce parcours exceptionnel devait s'arrêter là.
Oui, et c'est aussi ce que pensent tous ceux qui connaissent Amadou. Admis à Sciences Po, bloqué aux portes de l'Europe, ce serait se priver d'un vrai talent, m'ont dit sa professeure d'histoire, Marie Husson. Et Sophia Kouvelaki, la directrice de l'association Home Project.
Je pense que la France risque de passer effectivement à côté de quelqu'un qui peut lui apporter beaucoup. Il a intégré Reims, le programme Afrique. Son projet est d'aider le continent d'où il est originaire à se développer. Il veut vraiment, il a cet esprit de solidarité, d'entraide. Et je pense que oui, la France se priverait, si elle ne l'acceptait pas, de quelqu'un qui permettrait de faire le lien avec l'Afrique, qui permettrait... à la France d'être présente aussi sur ce continent d'une autre façon.
C'est un jeune homme très charismatique qui a montré de la résilience. Il est parfaitement prêt
non seulement à se prendre en charge, mais aussi à rendre à la société à laquelle il est déjà intégré. Il n'est pas seulement un exemple d'intégration. Il est un modèle d'excellence. Et je pense que c'est ce que l'Europe veut. Nous voulons que ces personnes fassent partie de la société et qu'elles deviennent des leaders. Et je sais que la France pourrait la première montrer l'exemple au reste de l'Europe.
Fabien, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'Amadou ait le feu vert et puisse poursuivre en si bon chemin ?
D'abord, Amadou a prévenu Sciences Po de ses difficultés inattendues. Vu son histoire, il pensait vraiment obtenir l'asile. Il reste cette ultime audience dans 10 jours. Et sinon, Sofia Kouvelaki de l'ONG Home Project en appelle à l'État français.
Le meilleur moyen d'aider Amadou maintenant serait que la France le considère comme un cas exceptionnel. Et il pourrait aller en France, à Sciences Po, sans passeport et sans permis de résidence. On pourrait y arriver avec un visa d'étudiant et des documents de voyage fournis par la France.
Voilà. Et si une solution était trouvée, Amadou irait sur le campus de Reims, qui développe un programme spécifique sur les relations entre l'Europe et l'Afrique. S'il obtenait des papiers, il aimerait fêter enfin son admission à Sciences Po en réunissant ses amis, m'a-t-il dit, et en dansant, en leur offrant un verre.
On croise les doigts pour lui et je crois que l'ambassade de France à Athènes a été saisie de son dossier. Merci beaucoup Fabien de nous avoir permis de découvrir l'histoire exemplaire d'Amadou Diallo, ce jeune Guinéen dont le courage force le respect. À bientôt.
Merci, à bientôt.
À suivre, l'élection présidentielle en Pologne, c'est aujourd'hui et le scrutin divise le pays.
Europe 1, les carnets du monde.
Chaque dimanche de 13h à 14h, écoutez Le Monde changé avec Sophie Larmoyer, les reporters et les correspondants d'Europe 1. Il est maintenant 13h44. Les carnets du Monde vous emmènent en Pologne, qui choisit son président aujourd'hui. Premier tour d'une élection qui aurait dû se tenir le 10 mai et qui a été repoussée à cause de l'épidémie de coronavirus.
Les Polonais votent aujourd'hui, second tour prévu pour le 12 juillet. Ils ont le choix entre 11 candidats, mais deux hommes tiennent la corde. D'un côté, les ultra-conservateurs du PiS, le parti au pouvoir, représenté par le président sortant, Andrzej Duda, et de l'autre, le principal parti d'opposition, la PO, pour Plateforme Civique. Ce sont les conservateurs modérés et leur candidat, c'est le maire de Varsovie. Il s'appelle Rafał Trzaskowski. Fanny Bocco, notre correspondante en Pologne, est en ligne avec nous. Bonjour Fanny.
Bonjour Sophie.
On va évoquer ensemble cette élection et la fracture qu'elle révèle une fois de plus au cœur de la société. Sur le plan politique, Fanny, cette opposition entre le PiS et la PO n'est pas nouvelle.
Non, depuis 2005, c'est une alternance qui s'est créée entre droit et justice et la plateforme civique. Le PiS est ultra-conservateur, catholique, défenseur des traditions et de l'histoire polonaise avec un grand H. Son électorat est plutôt dans les campagnes. À l'inverse, l'APO, principal opposant de centre-droit, est très libéral, tourné vers l'Europe avec un électorat dans les grandes villes. Il y a donc deux Pologne, Sophie. On dit même ici la Pologne A et la Pologne B, une division dans la société qui se ressent jusqu'au cœur des familles.
Et pour illustrer cette fracture, vous avez trouvé justement une famille où la politique est un sujet sensible.
Oh oui, et je vous amène chez eux, c'est la famille Novak, près de Cracovie. Une grande maison avec jardin, divisée en appartements, c'est ici que vit la famille d'Adriana, étudiante en français de 23 ans. J'ai rendez-vous avec elle et avec sa mère, Renata, 47 ans, agent de voyage, et sa tante, la sœur de sa mère, qui habite à côté, Aneta, 43 ans, professeur. Je précise juste que l'oncle et le grand-père, pourtant présents dans la maison, n'ont jamais voulu se joindre à la discussion. Difficile de parler politique en famille, comme le dit Adriana.
Bon, je ne parle pas politique, hein. C'est tout. Hein. Voilà, on parle, je sais pas, de mon travail, de mon copain, de mes amis. En fait, on parle beaucoup, mais on essaie d'éviter la politique. Peut-être c'est plus tendu maintenant, juste avant les élections. Et si ça part pas vers LGBT, parce que c'est la chose qui quand même nous divise beaucoup, bah, ça va, on arrive à se parler normalement et calmement. Hein.
Adriana se dit plutôt libérale, européenne, comme sa mère, Renata. Elle voudrait voter pour un candidat qui n'est affilié à aucun parti, pour en finir en fait avec cette dualité entre l'APO et le PiS. Face à elle, Aneta, la tante partisane du PiS.
Donc, même entre sœurs, les divisions sont très fortes.
Oh oui, et c'est bien simple. Durant l'interview, Renata et Aneta n'ont jamais trouvé un point d'entente. Sophie, jamais. Nous avons parlé de l'histoire du pays, de la religion, de sujets sociétaux. Elles étaient à chaque fois opposées l'une à l'autre. En fait, c'est blanc ou noir, comme l'explique Renata.
En fait, cette division du monde entre blanc et noir, ça c'est le grand problème. Ils ne permettent à personne d'avoir une opinion différente. Parce que les gens qui votent pour le parti au pouvoir, ils pensent qu'il n'y a pas d'autres options. Ils n'écoutent pas les arguments du camp d'en face. Quand les gens qui ne votent pas pour le PiS essayent d'expliquer, de convaincre avec des arguments assez logiques, c'est difficile d'avoir un dialogue. Alors oui, c'est important de penser à notre histoire, mais notre société doit avancer. Donc il faut regarder devant nous et pas seulement le passé.
Accusée à demi-mot d'intransigeance, la sœur Aneta intervient pour défendre son point de vue.
Je n'ai pas de contact avec les gens qui ont d'autres opinions politiques que moi. À part ma sœur donc et un ami ou deux. Je ne m'entoure que de gens qui pensent comme moi. Mais je pense que l'autre côté, la PO, est plus agressif que mon camp. Peut-être il peut y avoir des catholiques qui sont agressifs, mais je ne les connais pas.
Renata et Aneta se sont mis alors à raconter une série d'exemples d'agressions ou de propos violents de la part des deux camps, au point en fait que j'ai dû couper le micro pour la première fois de l'entrevue. La conversation devenait totalement inaudible.
Adriana, la jeune femme, disait qu'un sujet divisait vraiment cette famille, la question des LGBT. On en avait parlé avec vous ici dans les carnets, Fanny. C'est un sujet de campagne récurrent pour les conservateurs.
Oui, et c'est même le sujet le plus sensible dans cette famille et dans la société. Effectivement, depuis l'an dernier, le PiS est parti en guerre contre l'homosexualité, présenté ici comme une idéologie venue de l'Ouest pour pervertir les Polonais et surtout les jeunes. Un discours repris allègrement par ses électeurs, même si Aneta, sur le sujet, essaye de botter en touche, l'échange entre les deux sœurs dégénère assez vite.
Le PiS respecte tous les groupes sociaux, depuis la fécondation jusqu'à la famille. Les jeunes, les personnes âgées, il y a des allocations pour la famille. Ma sœur profite de cet argent, alors ne le prends pas, sois honnête. On vit beaucoup mieux qu'avant en Pologne.
Comme j'ai déjà dit, le PiS ne respecte pas tout le monde. Les LGBT sont discriminés ici, ils sont considérés comme anormaux, puisqu'ils ne conviennent pas aux valeurs du PiS.
Non, mais je suis une mère de 3 enfants, je dois faire attention à leur environnement, à cette idéologie LGBT. Et puis personne ne tue les personnes LGBT, non? Mais dans la constitution polonaise, c'est écrit que le mariage est entre un homme et une femme. Autrement, c'est inconstitutionnel.
On ne parle pas du mariage, là. On parle de manque de respect pour les autres groupes sociaux, des groupes différents des parfaits partisans de PiS.
Bon, la discussion continue, on comprend qu'elle est compliquée sur cette question LGBT. Autre sujet délicat, Fanny, dans ce pays très catholique qu'est la Pologne, c'est l'avortement.
Oui, et dans cette famille, tout le monde est catholique, baptisé et même marié. Mais la jeune Adriana se dit plutôt libérale, plus avec son temps. Elle veut aussi se marier et avoir des enfants, mais elle n'est pas contre l'avortement. Alors quand on aborde le sujet avec la tante Aneta...
Il y a ceux qui, comme moi, suivent la philosophie de Jean-Paul II. Et il y a les autres. Ceux qui sont comme moi sont pour la vie, pour la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité, et c'est celle-ci la nôtre. Les gens qui votent pour le PiS sont contre l'avortement. Ils sont pour la vie. Donc tous ceux qui sont pour l'avortement sont contre la vie. Je suis mère de 3 enfants, je suis catholique, donc je suis pour la vie. Je veux que les Polonais soient heureux. Et pour être heureux, il faut élire un candidat comme le président Duda.
Voilà. Moi, je me considère être pour la vie, pour la famille. Je veux avoir une famille. Et je suis pour la vérité, mais je ne veux pas pour le PiS. Je pense que je suis une bonne catholique.
Non, tu n'es pas une bonne catholique. Comme l'a dit Jean-Paul II, un pays qui tue ses enfants n'est pas un pays d'avenir. Il n'y a pas de discussion à avoir, c'est tout.
Et ça a continué comme ça, Sophie, jusqu'à ce que Aneta ayant des paroles très blessantes à l'égard de sa nièce concernant la religion.
Fanny, le discours de la tante Aneta est très extrême, non ?
Oui, mais c'est en fait un discours qui s'est banalisé parce que les Polonais l'entendent depuis 4 ans, depuis l'accession au pouvoir du PiS. Alors Aneta est une fervente partisane du parti au pouvoir, elle regarde TVP, la télévision publique, qui est un véritable outil de propagande pour les conservateurs. Elle répète en fait le même discours que les membres du parti. Et donc, ce sont devenus des propos assez classiques ici en Pologne. Mmh. Et puis, il y a un mot que vous avez entendu et qui revient souvent dans la propagande du pouvoir, c'est la vérité. Mmh. Andrzej Duda, l'actuel président, serait le garant de la vérité historique, selon ses électeurs, mais aussi ce principe de vérité découle également du catholicisme. En fait, si tu es une bonne catholique, tu es pour la vie et donc pour le PiS. Sinon, eh bien, tu es une mauvaise catholique, CQFD.
Ben voilà, illustration d'un dialogue de sourds, de l'échange si difficile entre ces deux Polognes qui s'affrontent dans les urnes aujourd'hui pour désigner leur président. Le président sortant est grand favori du premier tour, mais il n'a quasiment aucune réserve de voix, donc ça risque d'être très serré au second tour le 12 juillet. Merci beaucoup Fanny de nous avoir emmenés dans cette famille Novak près de Cracovie pour toucher du doigt la tension de cette campagne. À très bientôt.
Au revoir Sophie, à bientôt.
Et que diriez-vous d'un petit détour en Autistan avant de nous quitter? On retrouve Joseph Chovanec dans un tout petit instant.
Europe 1, les carnets du monde.
Et pour bien terminer ces carnets, Sophie Larmoyer, comme d'habitude, vous nous emmenez faire un tour en Autistan grâce à Joseph Chovanec avec sa triple casquette de philosophe, autiste Asperger et grand voyageur.
Bonjour Joseph.
Guten Tag, bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Alors aujourd'hui, vous nous appelez depuis la ville néerlandaise de Maastricht. Et ce petit voyage vous a inspiré quelques réflexions sur ce que nous disent certains noms propres.
Oui, Sophie, dans toute discussion, il y a un grand nombre de sous-entendus et de second degré. Et quand j'étais petit, c'était pour moi un facteur d'exclusion invraisemblable. Par exemple, jusqu'à l'âge adulte, j'ai cru que quand les gens parlaient de McDonald's, c'était par centre d'intérêt pour le maréchal d'Empire qui portait le même nom et qui avait combattu sous Napoléon. Donc je m'empressais d'ajouter des précisions historiques pour alimenter ces conversations entre passionnés.
Évidemment, ne pas penser au gros sandwich a pu vous exclure de certaines conversations. De gosses.
Oui, et souvent ce sont des noms de villes qui ont un tout autre sens dans le langage commun. Parfois c'est juste une impression, une sorte de sentiment qui se dégage. Au hasard, quand on vous lance Moscou, ce n'est sans doute pas tant la ville qui vous vient à l'esprit, hein, que d'ailleurs très peu de Français connaissent directement, alors que c'est la plus grande ville d'Europe, mais un ressenti vaguement menaçant, lointain, funeste. Hein. Ou alors quand on vous dit la Mecque, il y a sans doute toutes sortes de rêvasseries qui viennent à l'esprit. Mais pour moi, ça a été un vrai choc quand il y a à peu près un an et demi, j'ai mis enfin en vrai les pieds à la Mecque. J'ai vu les autoroutes, les maisons, les hôtels avec des gens comme vous et moi qui se dépêchaient pour aller au bureau. Hein. Et à la Mecque, pour moi, ça fait une sorte de choc.
Mais c'est vrai que quand on évoque la Mecque, on n'imagine pas une vraie ville derrière.
Oui, tout comme pour Jérusalem d'ailleurs. Hein. J'ai beaucoup d'amis européens qui sont partis s'installer dans l'une de ces deux villes saintes. Et ils y ont souffert de ce décalage entre l'image mentale et la ville réelle. Beaucoup sont d'ailleurs rentrés en France au bout d'un an ou deux tout au plus. En termes de dissonance cognitive, il y a pire encore. Il semblerait que le Benelux soit rempli de ces villes dont le nom évoque autre chose. Un jour de mon enfance, mes parents avec des amis luxembourgeois m'avaient fait visiter un charmant village sur les bords de la Moselle. Oui. À l'époque, son nom était totalement inconnu, Schengen. Ah. Et à chaque fois que j'entends ce nom de Schengen, c'est l'image de mon enfance qui revient, avec le restaurant très fleuri, la rivière, les drapeaux luxembourgeois.
Mais évidemment, aujourd'hui, on pense à l'espace Schengen, plus du tout au village.
Oui, et ironiquement, le village a sombré dans l'oubli à cause de la gloire de son nom. Ou autre exemple, la paisible localité de Spa, dans les Ardennes. Ouais. Pour moi, depuis l'enfance, c'était le lieu du haut commandement allemand pendant la Première Guerre mondiale. Donc quand les gens disaient « aller au Spa », j'embrayais sur Guillaume II, les uniformes prussiens, bref. Et puis évidemment, il y a Bruxelles. Quand en France, on parle de Bruxelles, c'est pour signifier le plus souvent une sorte de pouvoir froid et centralisé. Mais en fait, en Belgique, quand on dit Bruxelles, c'est synonyme de la très grande faiblesse du gouvernement central, ou plutôt de son absence. Parce que bon, la Belgique est habituée à vivre sans gouvernement.
Et alors Maastricht, puisque vous y êtes?
Oui, je crois qu'aucune ville n'a été davantage victime du mauvais sort que Maastricht. Pendant le fameux référendum, je m'amusais bien de la prétendue impossibilité de prononcer le nom de la ville. Mais aussi car à l'époque, j'étais passionné de fossiles. Et dans l'univers des fossiles, le Maastrichtien, c'est le 12e étage stratigraphique du Crétacé. Oula. En gros, il y a 70 millions d'années. Oui, c'est très vieux. Donc après tant d'années d'incertitude, j'ai enfin décidé d'aller à Maastricht pour tirer les choses au clair. C'est donc avec un retard de plusieurs décennies que je ne peux que conseiller de dire oui à Maastricht, à cette ville romaine, carrefour des cultures, des civilisations et des langues. Et quand on visite le complexe antique de Saint-Servaz, on voit dans la crypte les étoffes venues d'Inde, de Perse, du Grand Orient, du 10e et 11e siècle. Comme quoi c'est par ces mélanges-là que l'Europe s'est bâtie bien avant qu'on ne le croit.
Et mieux vaut tard que jamais, ça vous a plu, même avec retard.
Et j'y reviendrai.
Merci beaucoup Joseph, on vous donne rendez-vous dimanche prochain.
Merci, à tantôt.
C'est l'heure de refermer nos carnets du monde. Merci de nous avoir accompagnés. Vous savez où retrouver le podcast si vous souhaitez réécouter ou partager l'émission. Europe1.fr à la page des carnets. Merci à la belle équipe, Marc Fréjean à la réalisation et Florence Zimalac à la préparation.